Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Et c'est un plaisir de le retrouver en ce jeudi après-midi. Olivier, bonjour.
Hey, salut Sébastien, je vais te souhaiter bonne fête, même si c'est déjà passé. Joyeux anniversaire, mon ami.
Merci beaucoup pour les auditeurs qui l'ont manqué. C'était mardi, mais ouais, c'est le retard est tout pardonné. On se parle le jeudi, faut faire avec. Plusieurs sujets dans le monde du sport, Olivier, cette semaine. Tout d'abord, ben, faut revenir. En début de semaine, c'était la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.
Oui, absolument. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des bilans en se demandant bon qui étaient les grands gagnants, qui étaient les grands perdants. Écoute, ça va être dur à dire là parce que la date limite des transactions s'est terminée lundi et il y a eu du mouvement de personnel beaucoup plus que je m'attendais honnêtement. La semaine dernière, je vous disais que j'étais peut-être un peu sceptique par rapport à la façon dont on allait procéder en raison de la COVID-19. Mais écoute, faut que je lève mon chapeau aux Capitals de Washington qui sont allés chercher Anthony Manta, le Québécois, qui va s'amener dans une équipe qui compte déjà sur pas mal de joueurs talentueux. Moi, je pense qu'ils viennent de se donner une sérieuse option pour les séries éliminatoires. Anthony Manta, on le sait, peut-être pas nécessairement heureux avec les Red Wings de Détroit. Il ne produisait pas non plus comme on s'attendait à ce qu'il produise. Alors, je sais que du côté des Red Wings, là, je sais qu'on a gagné nous aussi notre échange. Écoute, on parle d'un choix de première ronde, choix de deuxième ronde. Jacob Vrana, qui a sensiblement les mêmes statistiques qu'Anthony Manta et Richard Panik, un joueur complémentaire. Moi, je pense que Steve Yzerman a gagné sa transaction, mais reste que dans l'immédiat, là, les Capitals, là, ils viennent avec un top 6 pas mal dangereux. Alors, chapeau à l'organisation. Le Derby Taylor Hall également, on regardait ça. Ben, finalement, c'est les Bruins de Boston qui l'ont emporté. On verra, hein, qu'est-ce qui va se passer avec Taylor Hall. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent, ce gars-là, c'est peine perdue, c'est une tête folle. Il y a pas moyen de le garder dans une formation à long terme. Moi, il y a juste une chose à laquelle je veux vous faire réfléchir, là, par rapport à Taylor Hall. Puis c'est ma réflexion des derniers jours. C'est, dans le cas de Taylor Hall, bon, il se retrouve avec les Bruins de Boston. On sait, là, ça n'a pas nécessairement été facile dans les vestiaires qu'il a côtoyés. Souvent, on disait qu'il n'avait pas nécessairement la bonne attitude. Par contre, regardez le groupe de leadership chez les Bruins. Je pense à, bien évidemment, Patrice Bergeron, Brad Marchand, etc. Moi, j'ai comme l'impression que si Taylor Hall tente de faire sa loi, il va se le faire dire rapidement. Puis, c'était pas le cas dans des organisations comme les Oilers d'Edmonton à une certaine époque, comme les Devils du New Jersey, comme les Coyotes de l'Arizona, puis encore moins comme les Sabres de Buffalo, qui ont pas de leadership depuis des années, puis c'est ça le gros problème. Moi, je crois que Taylor Hall vient d'arriver dans une organisation où il sera encadré par des vétérans, puis je pense que ça peut juste être bénéfique pour lui, parce qu'à partir du moment où ce gars-là va se traîner les bottines, ben moi, je suis pas mal certain qu'il va avoir 3-4 joueurs sur le banc qui vont lui dire « Si tu veux pas jouer, reste chez vous. » Et ça peut changer toute la façon dont Taylor Hall joue sa game, toute la façon dont Taylor Hall se prépare avant des matchs importants. Mm-hmm. Et peut-être que, sait-on jamais, là, peut-être que lui, ça peut être un revirement de situation important dans sa carrière. C'est pas un mauvais joueur, là. Il y a des saisons de presque 100 points là, dans la Ligue nationale. C'est juste que je pense que c'est une tête folle qui a besoin de se faire contrôler un petit peu. Et je crois qu'il tombe dans un vestiaire où il sera encadré. Puis ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais bref, je ferai pas toute la nomenclature des joueurs échangés. Je vais te dire une chose, par exemple, Sébastien. Je vais te parler de ces deux transactions-là parce qu'elles sont quand même très grandes. Mais quand je regarde ce que le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa ont fait, d'abord chez les Sénateurs, rapidement, je m'attendais pas nécessairement à ce que Pierre Dorion bouge, je l'avais dit la semaine dernière. Je m'attendais pas à ce qu'ils vendent autant. Braden Coburn, Mike Riley, des défenseurs qui ont quitté. Bravo, parce qu'on est allé chercher des choix au repêchage. On voit que Pierre Dorion pense à l'avenir encore. Il se concentre vers ça. Il a liquidé, disons, le bois mort. Gus Branson qui est parti à Nashville. C'est correct. Je comprends ce que Pierre Dorion a voulu faire. Et tant mieux, parce que, tu sais, il a monnayé un gars comme Mike Riley aux Bruins de Boston. Pas certain qu'on s'attendait à ce qu'il reçoive un choix aussi élevé pour Mike Riley. Le Canadien s'en est pratiquement débarrassé avec une caisse de poc il y a quelques années, tu sais. Donc, je pense que Pierre Dorion a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire monnayer des joueurs qui ont une certaine valeur, là, même si elle est peut-être minime, mais il a été capable de le faire, puis ça, ben, c'est tout en son honneur, parce qu'on le sait, les Sénateurs, là, oublier les séries cette année, ça n'arrivera pas. On passe à l'avenir, alors on a fait de la bonne façon. Du côté du Canadien de Montréal, évidemment, je pense qu'il y a des déceptions. Écoutez, John Merrill, qui a été échangé le dimanche soir, là, on se dit, OK, il reste encore de la place pour aller chercher un défenseur un peu plus talentueux. Il va chercher Erik Gustafsson. Erik Gustafsson, qui était à Philadelphie, qui a pratiquement pas joué cette saison parce qu'on n'était pas capable de faire de la place dans un alignement. Et soit dit en passant, chez les Flyers, c'est pas une saison qui va très bien, là. Alors, si Gustafsson n'est pas capable de percer l'alignement dans une disons, situation idéale pour des gars qui veulent faire leur place, qui ont tout approuvé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire à Montréal. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On sait qu'il a déjà connu une saison de 60 points. Pour un défenseur, c'est excellent. Mais écoutez, ça n'a jamais été répété par la suite. Son talent est indéniable. Selon les entraîneurs, c'est peut-être au niveau de sa méthode de travail, c'est peut-être sa méthode de préparation qui fait défaut. Puis écoute, t'as pas besoin de ça à Montréal présentement, ça va déjà pas très bien. Puis j'ai même pas le goût de m'attarder sur les performances du Canadien, là on en reparlera dans une autre chronique. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on soit capable d'amener du renfort à la défensive, un renfort important. Évidemment, là, c'est pas donné des défenseurs, là. Mais peut-être que Bergevin aurait dû transiger, parce que moi, je me rappelle, puis je vous le dis à toutes les semaines, mais je me rappelle du point de presse de début de saison où le Canadien a dit, mot pour mot, on va être dangereux en séries éliminatoires. Cette année, on veut mettre le paquet pour les séries. On est convaincu qu'on peut faire un bon bout de chemin. Mais quand je regarde ce que le Canadien fait présentement, sans dette supplémentaire, c'est impossible de la finir, là. Puis on n'embarquera pas dans le derby Cole Caulfield, devrait-il être à Montréal présentement, là? On en reparlera dans une autre chronique. Parfait. C'est juste que présentement, moi, j'aurais aimé avoir de l'aide pour les Canadiens, parce que quand je regarde les Flames de Calgary jouer au hockey comme hier, dans un système, évidemment, qui est difficile pour la forme, pour l'équipe que consiste le Canadien de Montréal dans l'heure actuelle, c'est sûr, Sébastien, qu'ils vont avoir de la difficulté. Puis tu sais, t'as un match contre eux demain. T'as pas le choix de performer, parce que si tu performes pas, tu sais pas, cette équipe-là peut te sortir du portrait des séries. Puis si c'est le cas, dites bye-bye à Marc Bergevin.
Ouais, non, c'est ça. Il veut pas l'échapper, celle-là, là.
Ben non, exactement. Alors, bref, marché des transactions qui a été beaucoup plus mouvementé que je m'attendais, mais je suis déçu de ce que le Canadien de Montréal a fait, notamment. Moi, je m'attendais, je comprends là, la profondeur, mais j'étais curieux d'entendre ça. Moi, je veux entendre les joueurs d'impact. Et c'est malheureux un petit peu qu'on n'a pas été capable de combler un poste qui est vraiment important, celui de la défensive.
Sinon, ben, Olivier m'envoie toujours ses sujets avant la chronique, bien sûr, qu'on sache un peu de quoi on va parler. Puis là, il m'écrit « Grand Prix du Canada maintenu pour l'instant », parce que quand je l'ai appelé tantôt, je dis « Comment ça maintenu? J'ai pas vu passer que c'était annulé, finalement. » Qu'est-ce qui se passe, là? Il va arriver quoi avec ce Grand Prix du Canada?
Ben écoute, premièrement, t'as pas fait erreur, parce que ce matin, je pense que c'est Radio-Canada qui avait rapporté que, justement, l'épreuve de F1 à Montréal avait été annulée et que la santé publique de Montréal avait décidé de prendre cette décision-là pour des raisons sanitaires. Écoute, semblerait-il que c'est toujours en ce moment une option d'annuler le Grand Prix, mais que c'est pas concret du tout, là. On dit que ça serait maintenu pour l'instant, mais que, écoute, évidemment, on évalue la situation, parce que présentement, ce qui se passe à Montréal, c'est quand même mieux que ce qui se passe, mettons, si on compare ça à l'Outaouais. Ça va un petit peu mieux dans certains secteurs, mais évidemment, c'est quand même inquiétant, parce que il y a une hausse des cas, on veut pas nécessairement avoir... un Grand Prix de Formule 1 qui va causer beaucoup de problèmes ou encore plus de problèmes. La mairesse de Montréal, justement, Valérie Plante, a mentionné aujourd'hui, elle, que c'est important pour tous les partenaires qui sont impliqués dans le dossier de la F1 de tenir cet événement-là. Alors ça, c'est rassurant pour les amateurs de F1 qui veulent un Grand Prix à Montréal. C'est de voir que la mairesse se dit, écoutez, là, on a des partenaires vraiment importants, au niveau financier d'ailleurs, qui font rayonner la ville de Montréal un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut se permettre d'annuler cette édition-là cette année, alors que d'autres pays qui sont capables d'avoir un Grand Prix de toute façon, malgré le fait que la pandémie est mondiale et planétaire. Alors, ça va être à suivre. On dit qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici les 48 prochaines heures. C'est le ministre des Finances, là, M. Fitzgibbon, qui a annoncé ça aujourd'hui, parce que lui, il risque de trancher. Puis je pense que ça va vraiment, puis c'est malheureux, là, parce qu'on dit on veut faire respecter la crise sanitaire, etc., mais entre toi et moi, je pense que c'est une question de gestion de portefeuille également, Sébastien.
Oui, beaucoup. La Formule 1, c'est une affaire de gros sous, là.
C'est ça. Et pour que le ministre de l'Économie dise, on vous donnera une réponse d'ici les 48 prochaines heures, ça veut dire qu'il y aura son mot à dire, parce qu'il y a des conséquences d'une annulation du Grand Prix de Montréal. Trompez-vous pas. T'annules ça, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Alors, bref, c'est pas fini. Mais on va le savoir d'ici à ce qu'on se reparle la semaine prochaine. On aura, disons, plus de détails à cet effet-là. Mais si vous avez entendu ce matin que le Grand Prix de Formule 1 de Montréal est annulé, pour l'instant, il est maintenu, mais ça peut changer.
Sinon, on revient sur ce tournoi des maîtres qui s'est terminé dimanche. Et puis là, on a écrit une page d'histoire, on peut le dire comme ça.
Ouais, puis même si ça n'a pas été un tournoi des... un dimanche fantastique, là, ça n'a pas été un gros tournoi. C'est Hideki Matsuyama qui, lui, a réussi. Là, puis il avait pris la tête vendredi, d'ailleurs, moi, ça m'avait impressionné. On s'en avait parlé jeudi, là, il commençait justement à très, très bien jouer. Mm-hmm. Vendredi, a tassé Rose, tout simplement, pendant le tournoi, et n'a jamais quitté la tête par la suite. Écoute, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est le premier Japonais à remporter le fameux Masters, à remporter le veston vert. Il vient d'écrire une page d'histoire à cet effet-là, et c'est le fun, ça ouvre la porte à, disons, une autre vue sur le monde du golf, parce que, rappelle-toi, les Jeux olympiques s'en viennent, il y a du golf aux Jeux olympiques, et là, Matsuyama, vraisemblablement, lui vient de se clasher pour les Jeux olympiques pour représenter son pays. Mm-hmm. Moi, je trouve ça le fun d'avoir la chance de voir, un plus grand échantillon de golfeurs internationaux. Et c'est là que je trouve ça intéressant, puis je trouve que Matsuyama vient de remporter probablement le tournoi le plus prestigieux de sa carrière. Là. C'est impossible mm-hmm. de remporter un autre tournoi de golf plus prestigieux que le Masters, mais en même temps, quand tu as la chance d'aller jouer pour la médaille olympique, ça devient un cachet intéressant également. Alors, on verra, mais tu sais, puis je suis pas un expert en golf, mais pas du tout, mais j'ai trouvé, en vertu des mesures sanitaires qui étaient imposées là-bas, j'ai trouvé vraiment que ça a été un beau tournoi. On n'a pratiquement pas senti la différence, Sébastien, aux autres années. Et non, bravo pour la tenue du Masters. Moi, j'avais certaines réserves par rapport à ça. Mais honnêtement, ça a été un beau tournoi. La seule chose, c'est comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, de ne pas avoir Tiger Woods dans les parages.
Ah, ouais, c'est sûr.
Qui défile sur les greens, j'ai trouvé ça difficile. Mais bref, tant mieux parce que ça s'est bien déroulé. On a réussi à tenir un tournoi et on vient d'écrire une page d'histoire, oui, avec Matsuyama.
Et sinon, rapidement, en terminant, ouais. Dans un mois précisément, le 15 mai prochain, on va introniser Kobe Bryant au Temple de la Renommée. Évidemment, ben, ça prenait quelqu'un pour le faire et c'est Michael Jordan qui a été choisi. Il risque d'avoir de l'émotion dans l'air.
Oh mon Dieu, qui d'autre hein, que Michael Jordan? Je pense, j'ai tellement l'impression que le choix est judicieux, tellement bien soigné. Puis en même temps, tu te dis, qui d'autre aurait pu présenter Kobe Bryant au Temple de la Renommée? C'est malheureux, puis à chaque fois, c'est malheureux lorsqu'on présente un athlète, un entraîneur à titre de posthume. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est malheureux quand la personne est décédée, puis elle peut pas vivre ce moment-là. Moi, je me rappelle que Pat Burns, qui a eu une carrière de coach phénoménale dans la Ligue nationale de hockey, a été intronisé au Temple de la Renommée du hockey il n'y a pas si longtemps par son fils Jason. J'aurais aimé voir un Pat Burns, tu sais, là-bas, fièrement mm-hmm. intronisé. Même chose avec Kobe Bryant, qui a connu une carrière exceptionnelle, mais le choix de Michael Jordan, pour moi, ça représente tout. Écoutez, lors de son service funèbre, je pense que c'était au Staples Center de Los Angeles, Michael Jordan avait livré un discours, écoute, très, très enlevant, là, puis évidemment, les émotions, c'était à fleur de peau, et je m'attends à rien de moins de lui. Pour ceux et celles qui ont suivi le documentaire de Last Dance sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago...
C'est sur Netflix, ça?
Ouais, exactement. Vers la fin de la série, là, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ça, puis si vous êtes des fans de sport, là, écoutez, ce soir, c'est pas compliqué, moi, là, on ouvre la télé et on écoute ça, là, je veux dire, c'est excellent. Et Michael Jordan, vers la fin de la série, commence justement à parler de son leg et on commence à entendre parler de Kobe Bryant et de son ascension. Honnêtement, leur destin a été croisé tout au long de leur carrière, là, on a l'impression, même si Kobe Bryant est beaucoup plus jeune, mais le respect mutuel entre les deux athlètes fait en sorte que pour moi, c'était le meilleur choix. Puis je sais qu'il y en a qui vous peuvent contester en disant, écoutez, il a joué avec des athlètes d'exception, Kobe Bryant, je pense qu'il y a des coéquipiers qui auraient pu venir justement le présenter, mais moi, je vois Michael Jordan comme le plus grand joueur de basketball de son époque mm-hmm. et probablement Kobe Bryant dans les très, très bons de son époque également. Alors, je vois ça comme, disons, la nature des choses. Je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Chapeau à la NBA d'avoir choisi Michael Jordan pour faire ça. Et ce sera très émouvant.
On évidemment. S'en reparlera dans un mois. Donc, quand ce sera fait, on va sûrement jeter un coup d'œil à tout ça. Olivier Beauregard, un grand merci encore une fois aujourd'hui puis un rendez-vous jeudi prochain.
Absolument. Bye-bye.